chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur Radioactive pour ce nouveau numéro de Tourangeau Écolo, l'émission qui vous fait faire connaître les innovations écologiques locales. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à une nouvelle association que l'on retrouve partout en France et notamment en Indre-et-Loire. Ce sont les conservatoires d'espaces naturels. Et pour nous en parler, nous avons reçu l'une des représentantes du conservatoire de Centre-Val-de-Loire. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ?
Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Manuela Vérité et je suis animatrice nature donc dans une association de protection de la nature qui s'appelle le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val-de-Loire et je m'occupe plus particulièrement donc de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher.
D'accord, donc vous êtes salariée de l'association ?
Oui, tout à fait, depuis 25 ans maintenant.
Qu'est-ce que ce conservatoire ? Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail ? Comme vous dites, vous y êtes depuis 25 ans, donc c'est pas quelque chose de nouveau ?
Non, je le connais très bien. Donc moi, pour vous dire un petit peu déjà, qu'est-ce que je fais ? Donc je suis animatrice nature, mais qu'est-ce que c'est que l'animation nature ?
Oui.
C'est tout ce qui est sortie scolaire, sortie grand public. Je fais aussi des fêtes, tenues de stand. Je m'occupe aussi de tout ce qui est aménagement, plaquettes, communication. Donc c'est communicante et animation. Donc sur le terrain, j'emmène les personnes donc directement au cœur des sites du conservatoire pour leur faire découvrir la biodiversité.
Oui, donc c'est beaucoup d'événements que vous organisez, que vous participez à mettre en place.
Oui, alors on a un calendrier de balades nature annuel, donc sur tous les sites de la région Centre-Val-de-Loire. Parce que donc le conservatoire est une association de protection de la nature. Il a été créé donc en 90, donc on a plus de 30 ans maintenant. Et donc, notre objectif principal, c'est la préservation des milieux naturels de la région Centre-Val-de-Loire.
D'accord, et donc les conservatoires, il y en a un peu partout en France et il y a une fédération des conservatoires. Qu'est-ce qui a poussé à les faire naître, notamment en région Centre ?
Alors oui, on a une fédération donc des conservatoires d'espaces naturels qui est née donc en 86, et donc on est 23 conservatoires actuellement sur tout le territoire français mais aussi outre-mer. Et donc qui est à l'origine de ces conservatoires ? Ce sont des passionnés naturalistes, des passionnés amoureux de la nature qui souhaitaient un outil fort de préservation parce que c'est un peu notre originalité en tant qu'association de protection de la nature. Nous pouvons donc acheter grâce à des fonds publics en fait des terrains privés qui nous permettent ensuite de préserver donc la biodiversité qui s'y trouve.
Oui, donc c'est des missions assez diverses au final, comme vous disiez, de faire des activités et aussi donc d'acheter des terrains. Donc ça permet de protéger les lieux. Donc c'est finalement, les conservateurs sont un peu nés des citoyens classiques, hein, c'est pas un projet d'État, c'est vraiment une association.
Oui, contrairement au conservatoire du littoral. En fait, on nous compare souvent avec le conservatoire du littoral, donc qui est donc lui organisme de l'État, et nous on est bien association, donc de loi 1901, à but non lucratif. Donc comme toute association, on a des adhérents, on est plus de 35 salariés maintenant actuellement sur toute la région Centre. Donc on a une antenne sur Tours, mais on a une antenne aussi à Vierzon, on a une antenne à Orléans avec le siège social de notre association, une antenne à Chartres et une antenne à Pouilly-sur-Loire. Donc on est, comme je vous dis, 37 salariés. Alors on ne fait pas tous que de l'animation. Il y a des scientifiques donc qui font toute la partie scientifique, il y a des gestionnaires, il y a le côté administratif, on a des animateurs territoriaux. Donc on a énormément de postes différents
qui correspondent à chacune de vos missions. Les scientifiques, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Rendre des recherches sur des terrains que vous récupérez ?
C'est ça. D'accord. Donc, on va faire des inventaires. Donc, on met tout dans un gros document qui s'appelle le plan de gestion. Et donc, comme vous le disiez très justement, nous sommes donc le CPGVA. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner. Donc, ce sont nos cinq missions.
D'accord.
Voilà. Ce sont les cinq missions de conservatoire. Et donc, pour remplir ces cinq missions, nous avons donc des salariés qui sont attitrés donc pour chaque mission.
Et plus concrètement, ces missions, elles prennent quelle envergure ? Donc, comme vous disiez, il y a les animations, pour les écoles notamment. Mais qu'est-ce qu'on entend par valoriser, par protéger ?
Alors, valoriser, donc, ce sera plutôt ma partie. Donc, effectivement, je fais des animations scolaires, grand public, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, là, je vais attaquer donc le programme Fréquence Grenouille, qui est une opération nationale, qui est initiée chaque année par notre fédération. Donc, elle fête ses 30 ans aussi cette année. Et donc, cette opération nous permet donc de sensibiliser les petits comme les grands à la préservation des zones humides. Donc, vous voyez, on a aussi des animations locales, mais qui s'inscrivent, en fait, dans du national. Ensuite, donc là, c'est la partie valorisation, comme je vous disais, mais il y a aussi, donc, le connaître. Donc là, c'est tout l'aspect scientifique, donc c'est tous les inventaires. On a aussi ce qu'on appelle un conseil scientifique, donc là, c'est plutôt des adhérents, donc qui vont valider, en fait, toutes les données scientifiques que l'on peut produire, que ce soit les salariés, mais aussi des bénévoles, qui nous donnent aussi des noms d'espèces, qui nous disent, bah tiens, sur tel site, on a vu telle espèce, comme ça, on peut l'inventorier, en fait, dans une base de données. Donc, on a connaître, préserver, protéger, donc là, ça va être ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc l'acquisition, donc on va passer par l'acquisition, mais on peut passer aussi par des conventions, avec des propriétaires privés, avec des collectivités territoriales, des baux aussi,
voire... Ça peut être des dons également, des terrains,
oui. Tout à fait, exactement, ça peut être aussi des dons, donc les propriétaires privés soit nous vendent, soit nous donnent, ou soit on passe des conventions avec quand les terrains sont hyper intéressants au niveau biodiversité. On a par exemple une tourbière dans le nord de Tours qui est hyper intéressante, le monsieur ne voulait pas forcément vendre, c'est son patrimoine, mais il voulait qu'on gère en fait au mieux ce milieu pour le préserver, parce qu'il y a une gestion différente en fait suivant le milieu que l'on a. Si vous avez une tourbière, vous n'allez pas la gérer à l'identique qu'avec une prairie de fauche ou une forêt alluviale ou une pelouse sèche. Donc il va y avoir des gestions de mise en place différentes suivant les milieux pour protéger la biodiversité qui s'y trouve. Donc on a protégé, géré, donc là la mise en place d'une gestion aussi écologique. Donc suivant les milieux, on va faire une gestion différente. Par exemple, je vous citerai sur une prairie, eh bien, si on laisse faire la nature, la prairie, en fait, elle va se coloniser par des petits arbustes et ensuite, ça va devenir une forêt. C'est l'évolution naturelle, en fait, d'un milieu, on va dire, ouvert. Et pour éviter, justement, de perdre la biodiversité d'une prairie inondable, humide, eh bien, on va mettre en place soit de la fauche, soit on va remettre du pâturage avec des agriculteurs, donc surtout des jeunes agriculteurs, mais aussi des moins jeunes qui ont besoin de place et donc qui vont nous aider pour la gestion et nous, on va louer, on va dire, le terrain à l'euro symbolique pour la plupart, pour qu'ils puissent justement gérer ce milieu écologiquement avec nous.
Ah oui, donc il y a des partenariats avec plein d'acteurs différents au final. Oui,
tout à fait.
Donc vous avez ces missions, et pour le territoire de l'Indre-et-Loire et plus généralement de la région centre, quel type de paysage on trouve ? Vous parliez de tourbières, quel genre de territoire on trouve sur la région surtout ?
Alors nous, au niveau milieu naturel sur la région centre-Val-de-Loire, on va être sur de la forêt, donc la forêt plutôt ancienne. Là, c'est notre grande ligne de conduite pour les années à venir, parce qu'on connaît tous le changement climatique, et donc on va essayer en fait de proposer des nouvelles actions, on va essayer de réfléchir à de nouveaux modes de gestion en prenant en compte en fait ce changement climatique. C'est un programme qui s'appelle Nature Adapte. Voilà. Donc si vous voulez, entre la forêt, on a des pelouses sèches, on a des prairies, on a même des cavités souterraines, par exemple, qu'on a achetées pour les chauves-souris. Donc là, on est en train de faire les comptages, par exemple, hivernaux. Donc il y a plein de naturalistes, spéléologues qui traînent dans les cavités pour faire le comptage donc des chauves-souris, des chiroptères. On a aussi tourbières, des mares, des étangs aussi. Alors nous, on est beaucoup sur l'axe ligérien. Et donc justement, le Val-de-Mont-Louis, sur 6 communes, on a plus de 300 hectares, par exemple, entre l'acquisition, donc qu'on a acheté, mais aussi la convention avec l'occupation temporaire, en fait, du domaine public fluvial. D'accord. C'est-à-dire qu'on va gérer pour l'État, en fait, ce domaine public de bord de Loire pour justement préserver la biodiversité.
Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres associations, je pense, comme la Maison de la Loire, par exemple ?
Oui, bien sûr. En fait, on a créé donc un réseau d'éducation à l'environnement. D'accord. Donc, on travaille beaucoup sur l'éducation à l'environnement, justement, donc la sensibilisation, l'animation. Mais pas que. Ils font aussi des suivis scientifiques sur les odonates, donc, c'est-à-dire les libellules, sur le site donc, de l'île de Bon Désir qui appartient en partie donc, au Conservatoire d'espaces naturels. Mais oui, bien sûr, on travaille avec la Ligue pour la protection des oiseaux. On a prévu un chantier externe, justement, sur Mont-Louis, sur l'îlot Saint-Brice cet automne. On travaille avec la Team River Clean pour le chantier de nettoyage, donc de l'autre côté, plutôt Vouvray vers nous, donc en automne aussi. On travaille avec Couleurs Sauvages, avec l'Arbre Voyageur aussi sur certaines manifestations. Oui, bien sûr, avec les associations, on a vraiment un tissu local fort au niveau de l'Indre-et-Loire. On est vraiment bien lotis par rapport à d'autres départements d'ailleurs. Donc moi, je parle beaucoup de l'Indre-et-Loire parce que je suis sur Tours, donc forcément, je suis plus proche des associations d'Indre-et-Loire, mais au niveau du Loir-et-Cher, c'est la même chose, au niveau du Cher, au niveau de l'Indre, etc. Il y a quand même un bon tissu associatif, et donc on essaie de travailler en toute intelligence ensemble pour la sensibilisation, mais aussi pour la préservation de la biodiversité et de la nature.
Mais ça permet de renforcer les forces. Et donc, vous disiez que vous préservez donc des zones que vous avez achetées ou que vous avez récupérées, donc que vous allez les entretenir. Mais est-ce que, par exemple, des territoires qui vont être abîmés, vous en récupérez aussi? Vous essayez de les réparer, entre guillemets?
c'est un peu ça. Des fois, par exemple, on achète des anciennes prairies de pâturage qui ont été en fait laissées à l'abandon par les agriculteurs parce qu'on a tous entendu parler de la déprise agricole. Et donc, dans certains secteurs, eh bien, ces prairies là en fait se sont vus s'enfricher au fur et à mesure du temps. Donc nous, on les rachète, on les restaure, donc on coupe les arbres, on restaure les haies, etc. On fait des arbres têtards aussi, par exemple, des choses qui ne sont pas faites depuis très longtemps. Et donc ensuite, on les remet dans le cycle en fait économique. Comme je vous ai dit, on a des partenariats avec des agriculteurs locaux pour pouvoir ensuite réentretenir en fait ces milieux ouverts.
Et donc, comme vous disiez, pour tout ça, pour faire tous ces projets, il y a des salariés, mais il n'y a pas que des salariés, donc vous avez aussi beaucoup de bénévoles?
Oui, oui, alors on a des adhérents, mais on a, on va dire, aussi des adhérents qui sont un peu plus, on va dire, dans la structure que d'autres, par exemple, qui sont membres du conseil d'administration, qui sont membres du bureau, donc vraiment le cœur décisionnel, en fait, du conservatoire. On a le conseil scientifique, donc là, c'est plutôt des naturalistes avec des spécialités très particulières, entomologistes, botanistes, ornithologistes, enfin voilà. Après, on a ce qu'on appelle, nous, les délégués départementaux. Donc là, c'est un bénévole qui va être le représentant de notre président au niveau local pour faire des signatures, par exemple, d'actes notariés quand on a une vente ou ce genre de choses, ou des représentations auprès d'instances X ou Y, voilà, dans des commissions. Et on a aussi nos conservateurs de sites. Donc les sites, en fait, sont dotés d'un conservateur qui est aussi notre relais local, qui va nous aider à faire la communication, à faire des animations. Là, donc, très prochainement, par exemple, on va avoir un chantier de nettoyage et de coupe dans le verger conservatoire, donc à la Frilière, à Vouvray, juste en face. Et donc là, c'est Mathieu, qui est donc conservateur de site, qui a monté en fait cette demi-journée, voire une journée, je crois, d'action. Et donc, on va l'aider, on va le soutenir dans la com, etc. Mais c'est lui qui a l'initiative en fait de ça. Voilà. Et après, nous avons plein d'adhérents qui adhèrent à nos actions, à nos idées, à notre objectif et nos missions, quoi.
D'accord, oui, donc c'est une équipe assez conséquente et solide. Et donc, en parallèle de tous ces acteurs qui vous soutiennent ou avec lesquels vous êtes en partenariat, bah, il y a les pouvoirs locaux. Vous avez des aides de l'État qui vous permettent d'acheter des terrains. Et est-ce que à l'échelle départementale, à l'échelle régionale, est-ce que vous êtes soutenu aussi financièrement, mais peut-être dans d'autres dimensions?
Oui, oui, tout à fait. En fait, je dirais même, je commence par l'Europe, parce qu'on obtient donc des fonds européens sur certains projets. Ensuite, on a les agences de l'eau, on a l'État, on a la région, on a les départements, on a les communes, les communautés de communes, les pays. Donc effectivement, on a énormément de soutien au niveau des collectivités territoriales. Donc ça peut être financier, ça peut être aussi des conventions, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ou des baux qu'on dit emphytéotiques, c'est-à-dire de très longue durée, par exemple de 99 on peut citer sur les puits du Chinonnet qui sont des espaces naturels sensibles du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Et là, ils nous ont confié la gestion, la valorisation, le suivi scientifique pendant 99 ans. Donc, on a le temps de voir venir. Et donc, voilà, donc on tisse soit des partenariats comme ça, on a des conventions pluriannuelles aussi d'objectifs avec les conseils départementaux, donc qui nous financent en fait pour la gestion, pour les salaires, pour faire de l'animation, pour faire des suivis scientifiques. On peut avoir des communes aussi, comme la commune de Bléré sur les pelouses de Bléré. Voilà, donc on a énormément de pouvoirs publics qui nous soutiennent, qui nous connaissent, qui reconnaissent aussi notre corps de métier, on va dire vraiment notre expertise, notre professionnalisme, parce qu'on a vraiment des professionnels au niveau du conservatoire, de gestion, de suivi scientifique, d'animation. Et donc ça, c'est important pour les pouvoirs publics de faire confiance, voilà, à des personnes qui ont vraiment les connaissances et les capacités de pouvoir mettre en place des choses derrière.
D'autant aujourd'hui où il est important de se questionner sur la biodiversité, le développement durable.
Tout à fait.
Et donc, dans les activités que vous mettiez en place, vous me parliez des écoles et des sensibilisations auprès des enfants. Quelle forme ça peut prendre, ces activités? Et pourquoi c'est important de parler aux enfants de la biodiversité locale?
Les enfants sont les adultes du futur. Donc, je vous dirais, c'est maintenant qu'il faut qu'ils découvrent ce que c'est que la biodiversité, quels sont, voilà, un peu les problèmes que l'on rencontre actuellement au niveau de notre environnement. Alors, on leur demande pas de sauver la planète, hein. On leur demande de réfléchir et de voilà, de leur donner des clés, en fait, et surtout de découvrir, en fait, leur environnement proche. Parce que moi, donc, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, et c'est vrai qu'on voit que les enfants sont de plus en plus déconnectés, en fait. Ils sont de plus en plus connectés à leur ordinateur, à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Mais ils sont déconnectés de la nature. On sort plus beaucoup, en fait, dans la nature pour beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que de permettre, en fait, dans l'école, de faire l'école du dehors aussi, par exemple. Il y a une grande mouvance en ce moment dans l'éducation nationale aussi. C'est l'éducation, donc, dans le dehors, de faire école dehors, ou même les aires terrestres aussi éducatives, qui sont très intéressantes aussi à mettre en place au niveau de l'éducation nationale. Donc voilà, on essaie de permettre aux enfants d'aller dehors et de découvrir, en fait, cette biodiversité. Donc moi, je fais soit des animations ponctuelles, donc je peux emmener une classe, une demi-journée ou une journée sur un site. Donc la plupart du temps, sont financés par nos partenaires financiers, mais sinon, bien évidemment, il y a aussi un petit coût pour l'école. Et il y a des projets aussi qui sont entièrement gratuits parce qu'ils sont financés justement par nos partenaires. Et donc là, l'école de Noisé, normalement, donc, doit participer à l'opération Fréquence Grenouille cette année. Donc c'est sur 5 séances. Donc il y a 2 séances en salle, 2 séances sur le terrain et une séance, en fait, où on prépare la restitution. Voilà. Donc ça va être un projet, donc, sur la fin de l'année scolaire, là, à partir de, on va commencer au mois de mars jusqu'au mois de juin.
Et en dehors des projets avec les écoles, est-ce qu'il y a quelques manifestations que vous organisez, des répertoires de biodiversité?
On n'organise pas forcément, on est plutôt co-organisateur ou participant. Donc, par exemple, il va y avoir une grosse manifestation avec plein de choses. Ce sera la fête des mares, donc à Lussot-sur-Loire. Donc là, je travaille avec le pôle 21, par exemple, que vous connaissez peut-être, Butte de Môme. Voilà, donc on prépare, enfin, c'est surtout eux. Moi, je vais m'occuper plutôt de la partie animation dans le cadre de la fête des mares, donc le soir, avec les enfants de l'école de Lussot, mais aussi d'ailleurs, parce que ce sera une fête ouverte à tous. On participe aussi, par exemple, à la fête de la nature aussi, à Coteaux-sur-Loire, donc carrément, par contre, du côté Val-de-Langeais, au cœur des prairies du Fouzon, dans le 41, à Couffy. Donc là, on coordonne aussi avec la mairie et le foyer rural cette fête. Donc voilà, donc soit on participe, soit on co-organise des manifestations, on va dire plutôt nature, voilà.
Et donc, pour suivre les actualités justement du conservatoire et donc les manifestations, les événements que vous organisez, comment on fait pour vous suivre?
Alors, soit on va sur notre site internet, donc c'est www.cen, donc cen-centrevaldeloire.org. Sinon, dans les offices de tourisme, nous allons avoir bientôt donc notre calendrier des balades nature, même titre par exemple que ceux qui connaissent déjà ceux de la Maison de la Loire ou d'autres structures. On a aussi nos sorties dans le carnet, en fait, du conseil départemental sur les espaces naturels sensibles ou le parc naturel Loire-Anjou-Touraine aussi. Voilà, donc on a plein d'endroits où on peut récupérer, en fait, nos sorties.
Et si on veut soutenir l'association ou pouvoir agir en sa faveur, qu'est-ce qu'on fait, par où on passe?
Alors, il faut adhérer. Déjà, c'est une première chose. Et après, on a le petit carnet du bénévole du conservatoire. Et là, il y a tout un listing, en fait, d'actions que vous pouvez mettre en place avec nous, sans nous, sur les sites, en dehors des sites, nous faire connaître, faire des actions de gestion, des actions d'animation, des actions d'inventaire. Voilà, suivant votre centre d'intérêt, on va dire, vous pourrez trouver les activités qui vous intéressent.
Eh bien, merci à vous d'être venu et d'avoir présenté le conservatoire.
Merci beaucoup à vous.
Et on vous souhaite un bon courage pour tous les événements à venir. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de Tout en Jeu Écolo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler toujours plus d'écologie en Touraine. Et en attendant, bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.